Hop, voilà. Et donc pour reconnecter simplement, puisque là ça fait une petite quinzaine de jours que nous ne nous sommes pas vus, eh bien on avait fait vu ensemble à quoi ressemblait la première période de Netflix, hein, où c'est un loueur sur abonnement de DVD. Après quelques tâtonnements, hein, en termes de business model. Et on avait terminé sur le fait que finalement, il a fini par pousser à la faillite le géant de la vidéo, de la location vidéo. Ce qui nous fait un exemple de ce qui est considéré parfois comme un grand classique en stratégie, en management de l'innovation, qu'on appelle parfois la malédiction des leaders, ou en anglais, incumbent's curse, donc la malédiction de ceux qui sont déjà sur le marché. Incumbent, c'est quelqu'un qui est déjà en place, en gros. Et donc, ça nous amène à une question pour laquelle, du coup, vous avez déjà en partie la réponse, hein, qui est, est-ce que l'innovation stratégique, c'est une arme pour déstabiliser les leaders? C'est vrai que souvent, l'innovation stratégique est plutôt mise en œuvre par des challengers, voire par des nouveaux entrants, assez rarement par des leaders. Ça peut s'expliquer finalement assez facilement, hein. Les leaders, quand ils sont sur un... Enfin, notamment ceux qui sont largement leaders, ont souvent des avantages très forts. Alors déjà, à la base, puisque c'est ce qui leur a permis de devenir leader, mais en plus, le fait même d'être... un leader, c'est-à-dire celui qui a les plus grosses parts de marché, hein, je rappelle que ça n'a rien à voir avec le pionnier, ça donne des avantages importants qui les rendent très difficiles justement à déstabiliser. Donc ces avantages, ils existent en matière de coûts, puisqu'ils sont plus gros, puisqu'ils vendent des quantités supérieures, ils bénéficient d'économies d'échelle. Et comme ça fait en plus généralement un moment qu'ils sont sur le marché, donc vous combinez économie d'échelle et une expérience importante, et vous avez des entreprises qui sont très bas sur la courbe d'expérience, hein, qu'on avait vue ou revue ensemble. C'est vrai souvent en matière de recherche et développement. Alors on aura un bel exemple avec Intel un peu plus tard, mais pour vous donner un exemple un peu marquant, au début des années 1960, donc IBM était le grand dominant du marché informatique et leur budget de recherche et développement était supérieur au chiffre d'affaires de leurs principaux concurrents. Donc vous voyez que forcément, les concurrents ne pouvaient pas s'aligner, ils ne pouvaient pas dépenser 100% de leur chiffre d'affaires en R&D. Et donc, à moins d'être beaucoup plus efficace qu'IBM, mais vraiment beaucoup plus, difficile de rivaliser avec un budget qui va être de l'ordre de 10 fois moins que celui du leader. Et puis, après, on pourrait citer beaucoup d'autres. Ce qu'on appelle parfois des actifs complémentaires sur lesquels le fait d'être leader est un avantage, hein. C'est le cas notamment en matière de réseau de distribution, hein. Vous êtes une marque reconnue, vous avez déjà les contacts. C'est délicat pour les réseaux de distribution de dire je vais déréférencer la marque leader pour mettre une autre marque dont je ne connais pas les capacités en termes de succès, etc. Du coup, c'est vraiment très difficile. Alors, ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a une forme de grignotage, Et au fil des années, mais souvent des décennies, on finit par avoir un leader qui change. Ça a été le cas sur le marché automobile où Toyota a fini par battre General Motors, mais ça a été à coup de décennies, progressif et étalé sur des décennies. Alors, qu'est-ce que permet l'innovation stratégique dans ce contexte-là? Bah elle va faire porter la concurrence sur d'autres aspects, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on avait dit, hein, une innovation stratégique, c'est une innovation qui va la plupart du temps modifier les facteurs clés de succès sur le marché. Donc là, je cite l'exemple de Canon contre Xerox. Donc Xerox a été très longtemps, enfin il a été même longtemps en monopole sur le marché des photocopieurs, puisqu'il avait bien protégé son innovation par des brevets. Ensuite, bah, à la fois, les autorités antitrust américaines lui ont imposé d'accorder des licences sur ces technologies. Et en même temps, certains concurrents ont commencé à contourner un peu les technologies de Xerox, si bien qu'il y a d'autres entreprises qui sont arrivées. Mais celle qui a fait le plus de mal à Xerox, c'est Canon. Et eux, ils sont arrivés avec des photocopieurs radicalement différents. C'est-à-dire que les photocopieurs de Xerox, c'était des photocopieurs centraux qui étaient conçus pour faire beaucoup de photocopies, parce que si c'était leur modèle d'affaires, hein, puisqu'ils faisaient payer un abonnement, puis un supplément quand on dépassait certains seuils. Donc ils avaient tout intérêt à ce que leurs machines soient les plus utilisées possibles. Donc ils avaient centré tous leurs efforts de R&D sur l'amélioration des performances, à la fois en termes de fonctionnalités, parce que plus vous rajoutez de fonctionnalités, plus on sera tenté d'utiliser un photocopieur pour des choses pour lesquelles on ne les utilisait pas avant. Par exemple, si vous pouvez faire des agrandissements, des réductions, etc. Ensuite, bah en termes de vitesse, évidemment, puisque leur intérêt est que leurs clients fassent le plus de photocopies possible. Et puis, et en termes de fiabilité. Parce que, bah, un photocopieur qui est en panne, évidemment, ne fait pas de photocopie. Mais par ailleurs, comme la fiabilité en termes de photocopieur, c'est quand même assez difficile à obtenir de façon. Enfin, il y a toujours quand même pas mal de problèmes, il y a tellement de paramètres qu'un photocopieur, ça ne peut pas ne jamais tomber en panne. Du coup, ils avaient aussi mis en place tout un réseau assez dense d'équipes de maintenance qui pouvaient intervenir très rapidement chez les clients. Eh bien, Canon, eux, ils ne vont pas du tout chercher à rivaliser avec Xerox sur ces caractéristiques-là, hein. Ils vont arriver avec un photocopieur beaucoup moins performant que ceux de Xerox, mais qui est conçu pour être utilisé dans un bureau, c'est-à-dire un photocopieur presque individuel. Du coup, il n'a pas du tout besoin d'être aussi rapide, il n'a pas du tout besoin d'être capable de tenir, je ne sais pas moi, 5 000 copies par jour. Il est donc très basique, mais alors il est aussi beaucoup moins cher. Voilà. Donc, et puis, alors du coup, bah, je vais pas tout détailler, mais tout le modèle d'affaires est différent. Xerox vendait essentiellement en direct et d'ailleurs, pour l'essentiel, loué. Hein, c'est ce système d'abonnement avec supplément alors que Canon va vendre systématiquement, hein, va pas proposer ses photocopieurs à la location et va les proposer à travers des réseaux de distribution, alors que Xerox vend en direct. Xerox vise avant plutôt les grandes structures ou les moyennes et grandes structures. Canon va notamment viser des entreprises plus petites. Et c'est seulement dans un deuxième temps, hein, que Canon va aussi augmenter les performances de ses photocopieurs et devenir aussi un concurrent redoutable de Xerox sur le haut de gamme. Sinon, Canon aurait pu ensuite être déstabilisé quand on est repassé quelque part à la photocopie partagée du fait du développement des réseaux. Ensuite, ça peut détruire les marges des leaders, hein, parce que pourquoi le leader peut aussi dépenser tant en R&D, c'est aussi parce qu'il a des marges bénéficiaires importantes. Si jamais vous lui coupez ses marges, il va devoir aussi probablement tailler dans les budgets qui lui donnent un avantage par ailleurs. Ça peut être en remettant en cause des éléments clés dans la chaîne de valeur qui sont sur lesquels les leaders réalisent le plus de marge. Donc on aura un bel exemple de ça avec la photo numérique juste après. Donc je ne développe pas davantage. Et puis parfois, l'innovation stratégique va permettre de contourner des barrières à l'entrée. Là, c'est un bon exemple de ça, c'est la manière dont Dell est rentré sur le marché de l'informatique avec un système de vente directe et puis avec un système où on pouvait dans une large mesure choisir les caractéristiques de son ordinateur, mais pas seulement parmi des modèles standards, mais on pouvait vraiment dire, moi, je veux tel microprocesseur avec tant de mémoire, avec tel disque dur qui ne correspond pas forcément au modèle standard. Donc la combinaison des deux a permis à Dell de se faire une place d'abord modeste et puis qui a explosé quand le e-commerce a explosé. Parce qu'évidemment, avant, le modèle de Dell était quand même un peu limité vis-à-vis des particuliers. Il fallait découper des bons de commande dans des magazines informatiques. Vous voyez, c'est quand même pas. Puis bon, ils vendaient quand même aussi aux entreprises, mais avec Internet, évidemment, enfin avec plus précisément le web et le développement du e-commerce, évidemment, ils ont pu toucher beaucoup plus de consommateurs et de clients aussi. Et puis, du coup, ça met souvent les leaders face à des choix qui sont extrêmement délicats pour eux. Parce que si l'innovation stratégique conduit à mettre en avant d'autres compétences, vous voyez qu'eux, ils vont être partagés entre, d'un côté, il faut continuer à exploiter, nous, ce qu'on sait faire, c'est ça. Hein. Or, il y a toute une partie de la stratégie qui dit qu'il faut s'appuyer sur ces compétences distinctives pour créer son avantage concurrentiel. Et puis en même temps, le fait qu'il voit bien souvent qu'il va falloir basculer vers d'autres ressources et compétences. Le cas de Blockbuster est assez parlant de ce point de vue-là, puisque à la fois il voit bien, par exemple, qu'on va basculer peu à peu à terme vers de la vidéo en ligne, voire du streaming. Et d'ailleurs, ils font des expérimentations sur le streaming avant même que Netflix, en fasse également. Mais en même temps, ils savent que leur avantage concurrentiel, il repose largement sur leur réseau justement de distribution qui là pour le coup est en propre et sur leur logistique et leur stock de cassettes. Et donc ils sont vraiment pas pressés de basculer vers ce nouveau monde où avoir des stocks de cassettes ne sert plus à rien. Ou avoir un magasin au coin de la rue plutôt qu'à 20 km ne sert plus à rien, etc. Donc vous voyez, tout leur, tout, ça tue quasiment tous leurs avantages. Et ça le rejoint aussi, ce qu'on appelle les sunk costs, littéralement les coûts coulés, c'est lié au fait que bien souvent les leaders ont investi. D'ailleurs, ça rejoint en partie, hein, ils ont investi dans des ressources et compétences, mais là, ça s'emploie peut-être encore plus pour de l'investissement physique, on va dire, qui est, vous venez de créer une usine qui utilise un procédé de fabrication, une grande usine sidérurgique, par exemple, et puis vous avez des entreprises qui arrivent avec un tout nouveau procédé. Alors vous me direz, ça, c'est plutôt de l'innovation technologique, mais un procédé qui est vraiment très différent, qui conduit à des qualités d'acier différentes, plutôt inférieures, mais pour moins cher. Du coup, ça modifie quand même, hein, on est un peu à la limite, effectivement, entre de l'innovation radicale classique. On est aussi dans ce que Christensen appelle de l'innovation de rupture, mais ça, on y reviendra, parce qu'évidemment, une innovation, ça peut être plein de choses en même temps, hein. Mais là, du coup, comme vous répondez à une demande spécifique, que vous modifiez malgré tout, en tout cas, les proportions sur un facteur clé de succès du marché, on peut considérer typiquement que dans un cas comme ça, bah, ok, et admettons que vous vous rendiez compte que finalement, bah, ces nouvelles aciéries électriques, bah, vous auriez intérêt à aller vers ça, mais seulement, voilà, vous venez juste de dépenser 3 milliards et demi d'euros pour votre grosse usine sidérurgique classique. Donc, c'est ça qu'on va appeler les sunk costs, c'est que si vous basculez sur la nouvelle technologie, ces investissements, vous les aurez fait pour rien. Et donc, malgré tout, hein, c'est la même logique que le changement de base de ressources et compétences, c'est-à-dire que tout ce que vous aurez investi en amont pour développer certaines parties de votre R&D, par exemple tout ce que vous aurez capitalisé pour améliorer les performances de vos photocopieurs, bah, perdra beaucoup en valeur. Là, ça n'a pas complètement fait disparaître l'avantage, il ne faut pas exagérer, mais va perdre beaucoup de valeur. Quand bah, Canon va arriver avec des photocopieurs beaucoup moins chers. Donc voilà pourquoi on considère souvent hein, que l'innovation stratégique, et même d'une façon un peu plus générale, hein, les innovations en rupture avec l'existant, donc innovation radicale, innovation de rupture au sens de Christensen, ont cet effet de déstabiliser les leaders. Néanmoins, il peut exister enfin, il existe des exceptions, hein. Et je vous mettrai du coup bah, sur le e-campus un article. Alors c'est un article de recherche, mais pas trop difficile à lire. Enfin, qui porte sur l'arrivée des salles multiplex dans le cinéma et qui montre qu'en fait, alors il montre que c'est une innovation stratégique, ce qui ne saute peut-être pas aux yeux, mais il le démontre assez bien. Et ensuite, bah, il montre qu'en fait, cette innovation stratégique-là, elle a plutôt servi à les intérêts de ceux qui étaient déjà des gros acteurs du secteur, et que du coup, ça a plutôt renforcé la position des leaders que l'inverse. Donc voilà, il peut y avoir quand même des exceptions. Et du coup, ça nous amène au sujet numéro 3. Alors, je sais, hein, certains, enfin, quelqu'un m'avait écrit, mais au nom de plusieurs personnes de la classe, pour demander si je pouvais le mettre plus tôt. Mais voyez, comme il est directement lié à ce qu'on vient de voir, il n'y avait ni les slides sur le e-campus, ni ce qu'on vient de dire. C'était un peu délicat. Voilà. Et je n'ai pas eu le temps de mettre. J'aurais pu mettre à la limite cette dernière slide, ça vous aurait donné. Mais enfin, je n'allais pas la mettre au milieu sans que vous ayez ce qu'il y a avant. Donc, bref, là, je n'ai pas eu le temps de rattraper le retard que j'ai sur la mise en ligne des slides. Je tiens bien le rythme sur la mise en ligne, enfin, à peu près, sur la mise en ligne des enregistrements. En tout cas, il y a parfois quelques jours d'écart, mais il n'y a pas un cours complet d'écart. Là, il y a pas plus qu'un cours pour les slides. Mais bon, j'y travaille. En tout cas, voilà votre sujet numéro 3. Puis il vous reste quand même 3 semaines à peu près hein, pour le faire, même ouais, un petit peu moins, pas beaucoup moins. Donc c'est à rendre pour le 8 décembre, pour ceux qui décideront de le choisir, hein, puisque je rappelle encore une fois que vous devez faire au moins 3 sujets parmi les 6 que je vais vous donner. Donc, s'il y en a qui ne vous inspirent vraiment pas de panique. Du coup, vous pouvez avoir la stratégie. C'était assez intéressant l'année dernière. Il y avait ceux qui ont fait les 6, à la fois par intérêt, pour le côté entraînement, et puis bah, pour optimiser vraiment, là, pour le coup, les 3 meilleures notes sur 6, ça donne quand même une sécurité. Et il y en a beaucoup qui en ont fait 4. On dit bah, au moins ça effacera ma moins bonne note, ça me donne une petite sécurité. Puis Il y a quelques minimalistes qui en ont fait juste les trois minimums. Donc vous avez réellement le choix. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit voilà, un bon exemple de changement de la base de compétences et de destruction de. Par ailleurs, de la marge sur la chaîne de valeur, c'était plutôt ça d'ailleurs que. Où les deux sont vrais, hein, mais c'était plutôt à ce niveau-là que je l'avais pris comme exemple. Donc, je vous ai dit qu'on allait reparler de la photo numérique. Donc, on va reparler du coup d'une autre innovation déstabilisante, mais cette fois plutôt de nature technologique. Et on va voir justement. Dans quelle mesure, enfin, quels sont les éléments, ça peut d'ailleurs aussi vous aider un peu pour le sujet, quels sont les éléments qui vont faire que certaines entreprises vont très bien résister et d'autres, au contraire, vont justement être déstabilisées. Alors, si je pose un petit peu vraiment les bases historiques, hein, et le contexte, globalement, on se situe dans un système qui n'est pas dans lequel les innovations radicales ne sont pas si fréquentes. Il y en a, hein, assez régulièrement, mais globalement, on est sur un marché. Alors, quand je dis stable, il est quand même en croissance, mais si vous voulez, c'est pas de l'hypercroissance. Il n'y a pas non plus beaucoup de volatilité dans les taux de croissance. Donc voilà, il est encore en croissance, mais plutôt modeste, enfin modeste, en tout cas pas extrêmement élevé. Et puis au niveau stratégique, là aussi, on atteignait une certaine stabilité. Alors quand je parle au passé comme ça, on va dire que c'est dans les années 80. Mais, enfin, les choses s'étaient mises en place avant, hein. Donc, d'une part, côté fabricant d'appareils photo, les fabricants japonais avaient écrasé la concurrence. Hein, il n'y avait plus beaucoup d'autres entreprises, à part Leica, par exemple, en Allemagne, mais bon, avec des appareils très haut de gamme, donc qui, en termes de volume, n'étaient pas du tout comparables à ceux des grandes marques japonaises. Donc, parmi les grands de l'époque, donc on voit Nikon, Minolta, Canon, Pentax, Olympus, ce sont les principaux. Alors Kodak, ceci étant, fait aussi des appareils photo. Alors lui, il les vend quand même avec des volumes relativement élevés, mais c'est presque un peu l'inverse. Il est un peu cantonné sur les appareils, on va dire, moyenne gamme. Donc pas forcément ceux sur lesquels il y a plus de marge non plus. Mais bon, voilà, c'est quand même une activité historique, donc qui continue à faire des appareils photo. Mais là où ils font l'essentiel de leurs bénéfices et là où ils sont dominants, c'est sur les pellicules photographiques. Et puis, par ailleurs, il se trouve qu'ils sont aussi leaders sur les équipements pour les laboratoires de développement et de tirage, puisqu'à l'époque, hein, l'immense majorité des photographes faisaient développer et tirer leurs photos, soit chez des spécialistes, soit dans des magasins type grande distribution, etc., mais avec des laboratoires derrière. Il n'y a que vraiment les super amateurs et les professionnels qui développaient eux-mêmes dans leur chambre noire leurs propres photographies. Là, le principal concurrent de Kodak, mais assez loin, même s'il avait tendance à grignoter un peu, vous voyez, ça aurait pu être un exemple de grignotage où Fujifilm serait devenu leader aujourd'hui, peut-être, alors que si le marché était encore un peu significatif. Et le troisième, c'était Agfa. Et puis, il y avait un monde un peu particulier sur la photographie instantanée, où même si Kodak avait fait une petite enfin, pas une petite, mais avait fait une incursion sur le marché. Il avait été condamné pour contrefaçon de brevet de Polaroid. Ça lui avait coûté très cher. Donc, on va considérer que, voilà, faire comme si ça avait été uniquement Polaroid. Donc, alors, eux, à ce moment-là, ils sont, voilà, à partir du moment où ils ont gagné le procès contre Kodak, je crois que c'est en 91, ils vont même être vraiment tout seuls sur le marché de la photo instantanée. Alors, d'un point de vue technique, et c'est aussi intéressant de voir que même dans le monde électronique, parfois, il faut un peu de temps entre le moment où il y a une invention et le moment où on en voit toutes les conséquences. En fait, le fait même qu'il y ait un capteur avec des photosites qui puisse saisir une image, bah, c'est inventé en 1970. Et c'est seulement 5 à 6 ans plus tard, je dis 5 à 6 parce que selon les sources, le premier prototype en question, il est des fois indiqué en 1975, des fois en 1976. Alors peut-être que c'était en fin 75, au début 76. Peut-être qu'il a vraiment monté son prototype en 75, mais qu'il l'a présenté à ses dirigeants en 76. Je ne saurais pas vous dire, mais ça n'a pas non plus une gigantesque importance. Donc voilà le prototype qui a été présenté. Alors, on peut comprendre que sur cette base-là, les dirigeants de Kodak n'aient pas été tout de suite conquis. Hein. Si vous regardez attentivement, vous verrez que, par exemple, l'enregistrement des données se fait sur une bonne vieille cassette audio, sur le côté à gauche. Bon, puis alors les cartes sont visibles, on voit bien qu'il y a que c'est un appareil qui est lourd, voilà, tout ça pour un capteur 10 000 pixels en monochrome. Donc, effectivement, ça ne fait pas rêver. Donc, alors, ceci étant, hein, et parfois c'est caricaturé un peu, hein. Ceci étant, les dirigeants de Kodak ne vont donc effectivement pas, et on peut les comprendre, se jeter à corps perdu dans la photo numérique, mais ils vont quand même considérer que ça pourrait progresser et Kodak va régulièrement consacrer, et de façon croissante, des ressources à la photo numérique. Donc, Kodak, contrairement à la présentation qu'on a parfois tendance à en faire quand on veut aller trop vite, n'est pas complètement passé à côté de la photo numérique. C'est même d'ailleurs, enfin, c'est un des cas, c'est aussi ce qui rend le cas intéressant. Et puis, bah, le premier appareil photo commercialisé qui peut être assimilé à un appareil photo numérique, en fait, c'était un peu un hybride, en quelque sorte. Hein, donc, c'est le Mavica de Sony. Donc, on retrouve nos amis de chez Sony. Hein, qui d'ailleurs, au départ, n'est vraiment commercialisé qu'au Japon. Donc, on sent assez que c'est un peu le produit lancé, on va dire, c'est presque un MVP, si vous voulez, c'est presque un produit lancé juste pour expérimenter, pour tester un peu le marché et les réactions éventuelles des consommateurs. Alors, pour que vous ayez une petite idée, hein, donc, c'était enregistré sur des disquettes. Alors, chaque photo ne pesait pas très lourd, donc on arrivait à mettre 50 photos sur une disquette. Sachant que Sony est aussi l'inventeur de la disquette. Donc, c'est cohérent. Le capteur était de 280 000 pixels, ce qui est quand même déjà mieux que les 10 000 du premier prototype. Alors, ensuite, les années 80 passent. Et en fait, bah, dans les pays occidentaux, on n'entend même pas parler, hein, de photos numériques ou très très peu. Et puis finalement, ça va commencer à bouger à la fin des années 1980, et notamment quand, pour la première fois, un acteur majeur de la photo lance un appareil photo numérique. Parce que Sony, à ce moment-là, n'est pas, vous voyez que je ne l'ai pas cité, hein, tout à l'heure, n'est pas un acteur majeur de la photographie. Donc bon, ça c'est un détail, mais on est toujours sur du stockage de disquettes, mais là c'est des mini disquettes et on n'a pas beaucoup progressé sur les capteurs. Et alors là, on a, de toute façon, tout le cas est intéressant, c'est pour ça qu'il est dans le cours. Enfin, moi, je le trouve intéressant. J'espère que ce sera votre cas aussi. Parmi les originalités, c'est qu'il va se développer par deux côtés, en fait, le marché, par le haut et par le bas. Alors, du côté du haut, c'est notamment Kodak qui va proposer un dos numérique très haut de gamme. Donc, pour l'époque, c'est énorme, 1,3 million de pixels, vous voyez, hein, par rapport aux autres. Et en fait, ce n'est pas un appareil complet, c'est quelque chose qui se met sur le dos, qui remplace l'arrière, en gros, de l'appareil, d'un appareil argentique classique. Et du coup, on ne met pas de pellicule, donc la lumière va aller sur le dos numérique en question et va donc, qui va donc capter de façon numérique la photo. C'était très très cher. Je n'ai pas retrouvé le prix précis, mais enfin, ça correspondrait à des milliers, peut-être 10 000 ou 12 000 euros d'aujourd'hui pour avoir un petit ordre de grandeur, mais très très imprécis, hein, qu'on soit clair. La justification, enfin, pourquoi certains ont acheté ça, en fait, c'est parce que les photographes, lorsqu'ils prenaient des photos argentiques, parfois utilisaient des appareils photo instantanés pour faire des essais, parce qu'en fait, pour bien voir réellement qu'est-ce que ça donnait en termes de lumière, sachant que eux, ils allaient prendre des photos et ils n'allaient savoir au mieux s'y développer eux-mêmes que quelques heures plus tard ce que ça donnerait. Et puis parfois ça pouvait être plus, hein, mais là en l'occurrence on est plutôt chez des photographes professionnels, donc beaucoup développés eux-mêmes. Et donc ça voulait dire que si ça donnait pas tout à fait ce qu'ils voulaient, par exemple ils avaient comment dire, s'ils avaient un mannequin pour leur photo, le mannequin était parti depuis longtemps quand ils s'apercevaient que, non, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Donc ils faisaient des essais. Alors ils le faisaient des fois avec des Polaroïdes, mais Polaroïdes, les pellicules n'avaient pas les mêmes caractéristiques que les pellicules Kodak, donc ça pouvait donner des impressions un peu différentes. Et puis surtout, ça coûtait cher quand on faisait beaucoup de photos d'essai, on gâchait de la pellicule Polaroid qui était assez chère. D'où l'intérêt, hein, pour des photographes qui faisaient ça de façon extrêmement intensive, d'avoir comme ça la possibilité de voir ce que donnaient les photos sans avoir à utiliser de la pellicule. Donc c'est vraiment une niche, mais un peu une micro-niche, hein. Ça pouvait aussi éventuellement être intéressant pour des journalistes qui avaient besoin d'envoyer leurs photos tout de suite, qui pensaient qu'on risquait de leur prendre leur pellicule à la frontière dans des pays où la liberté de la presse n'est pas. Et qui, par exemple, avaient la possibilité d'envoyer des fichiers par satellite. Vous voyez que là aussi, c'est quand même très très pointu. Comme utilisation. Et puis à l'inverse, il y a l'entrée de gamme, avec là un positionnement ludique, hein, parce que la qualité des photos est très très loin des bonnes pellicules argentiques, hein. Alors quelques exemples, il y avait Logitech, qui était déjà un fournisseur d'accessoires, d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est pas du tout un spécialiste de la photo, hein. C'est un vendeur d'accessoires informatiques. Donc ça veut bien dire que son appareil photo numérique, c'est considéré comme un accessoire, un périphérique, en gros, de micro-ordinateur. Une de nos entreprises field director, Apple, s'est aussi lancée sur ce marché-là en 93-94 sans grand succès. Alors eux non plus, ce ne sont pas des acteurs de la photographie, mais en réalité, l'Apple Quicktake, c'était un appareil Kodak. Donc enfin voilà, il avait été conçu avec Apple, mais sur la base largement des compétences de Kodak et fabriqué par Kodak. Ce qui montre encore une fois hein, que Kodak n'est pas complètement passé à côté de la photo numérique au passage. Et ça nous rappelle aussi que on n'a pas comme schéma unique les innovations de sophistication qui arrivent avec des performances supérieures à l'existant par le haut de la gamme, ce qui est souvent ce qu'on a en tête et ce qui arrive souvent, hein. Je ne dis pas du tout que c'est un schéma qui n'existe pas ou qui est rare, et puis bah, qui peu à peu voit ses prix baisser jusqu'à parfois bah, éjecter la technologie d'avant. Ce qu'avait montré Christensen, c'est qu'il y avait des innovations de rupture, et l'innovation de rupture typique de Christensen, c'est plutôt celle-là. C'est l'innovation qui arrive avec des performances inférieures aux produits du marché. Des performances inférieures, mais d'une part, parfois un avantage sur tel ou tel point précis qui lui permet de trouver des clients. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça commence à être un petit peu loin parce que c'était au tout début du cours, mais je vous avais présenté l'exemple des disques durs et des nouvelles générations de disques durs qui n'avaient pas du tout la capacité des disques durs précédents, donc qui paraissaient être une forte réduction des performances, mais qui étaient plus petits. Et le simple fait d'être plus petit faisait que ils intéressaient bah, de nouveaux segments, des segments spécifiques du marché. Donc là, on est un peu dans la même logique, hein, sauf que bah, la niche visée, c'est plutôt ceux qui veulent s'amuser un peu, regarder une photo rapidement sur l'écran sans trop de contraintes et voilà, je dis l'essentiel. Mais même sur ces appareils-là, qui sont alors pour le coup beaucoup plus économiques, hein, donc il n'y a plus vraiment le problème de prix, bah, ça ne va pas être un gros succès non plus. C'est-à-dire que la photo numérique reste mais, très très marginale. Alors, ça s'explique assez facilement par le fait que finalement, l'environnement n'était pas, excusez-moi, n'était pas vraiment prêt à accueillir la photo numérique. Et ça arrive assez fréquemment hein, qu'une technologie décolle quand non seulement elle-même, elle progresse, bon, ça, c'est logique et ça ne vous surprendra pas, mais aussi quand il y a des choses autour. Souvent des technologies complémentaires, mais ça peut être aussi des évolutions sociétales. Hein. Donc là, je parle de l'environnement technique, mais parfois, c'est d'autres éléments de l'environnement qui évoluent. Pensez par exemple au fait que bah, il y a, dirais, 20 ans, la tendance était très claire, à part en Chine et en Inde. Dans la plupart des pays, quand on n'avait pas déjà abandonné le nucléaire, bah voilà, on continuait à faire fonctionner ces centrales, mais pratiquement plus personne n'en construisait de nouvelles. Et puis avec la montée de la préoccupation des émissions de carbone, on s'est dit, bah ok, c'est pas l'idéal. Il y a des risques et puis ça crée des déchets très radioactifs, mais une fois la centrale construite, parce qu'il y a quand même des émissions de CO2 dans le chantier, hein, bah c'est quand même un système qui permet d'avoir de l'électricité régulièrement, de base, comme on dit dans le. Sans émettre de dioxyde de carbone. Et du coup, bah on a vu des pays revenir vers le nucléaire. Alors, la France était un des pays qui était le moins dans une optique d'en sortir. Mais aussi, par exemple, la Grande-Bretagne. Et il y a des projets qui commencent à renaître aux États-Unis où on n'a plus lancé de chantier de centrale nucléaire depuis 1975, par exemple. Voilà, et ça, c'est la préoccupation pour le CO2. Donc parfois, c'est des changements de ce type-là. Ceci étant, là, c'est plutôt une question de technique. Alors, sur les appareils photo eux-mêmes, enfin, ce qui concerne la photo numérique directement, on l'a vu, hein, les capteurs sont quand même encore assez limités. Alors, je vous ai mis les pixels, mais au-delà des pixels, c'est aussi une finesse dans les couleurs qui est encore très limitée, qui fait que ça fait des photos sans nuance. Et puis qui peuvent difficilement être. Enfin, imprimer une photo de 300 000 pixels, ça, vous allez voir les pixels. Hein. Ça passe encore à l'écran, surtout qu'à l'époque, bah, les définitions des écrans n'étaient pas très fortes. Hein, mais. Les capacités de stockage restreintes, c'est pour ça que je vous ai signalé, quand c'était le cas, que c'était un stockage sur disquette, parce qu'une disquette. En général, ça a comporté quelques centaines de kilooctets et parfois donc quelques mégaoctets de données. Et puis, par ailleurs, il se trouve qu'évidemment, puisque plus de 99% des ventes se faisaient dans la photo argentique, hein, qu'encore une fois, le numérique était complètement marginal, bah, évidemment, les optiques, tout ce qui est optique, ce qui est très important hein, en photo pour la qualité des photos, était en fait optimisé pour la photo argentique. Donc, comme ça valait pas le coup de développer spécifiquement des optiques pour la photo numérique, ben, on montait des optiques qui avaient été conçues pour la photo argentique sur des appareils photo numériques, ce qui créait un certain nombre de phénomènes que je ne saurais pas trop vous détailler, mais gênants. Donc voilà. Mais il n'y a pas que les appareils eux-mêmes qui n'était pas tout à fait prêt. On l'a vu, enfin on l'a vu, on s'en doute, l'un des principaux avantages de la photo numérique, c'est que l'on peut visualiser les photos et ne tirer que celles qui sont vraiment intéressantes. Seulement voilà, je les visualise, mais je les visualise où? Parce qu'à l'époque, bah, les téléviseurs sont analogiques et n'ont pas d'entrée HDMI. Hein. Donc logiquement, c'est plutôt fait pour être branché à des PC, des micro-ordinateurs, de façon plus générale. Mais seulement, voilà. À l'époque, enfin là encore, dans les années 80, peut-être que le taux de pénétration selon les pays, et je parle que des pays développés, c'était peut-être 20 à 30% des foyers qui étaient équipés d'un ordinateur. Donc ça veut dire que la grande majorité n'en avait pas. Et puis quand on avait un ordinateur, c'était pas tout à fait ceux d'aujourd'hui. Hein. Alors, il se trouve comme quoi des fois on a des lubies un peu bizarres qui nous servent un jour. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit à un moment donné, quand j'étais beaucoup plus jeune, ah bah tiens, je vais noter les configurations des ordinateurs que j'ai. Comme ça, bah, ça permettra de voir l'évolution. Bah, du coup, je peux vous dire que au début des années 90, en gros, les PC de l'époque, parce que bah, voilà, il y avait évidemment le monde Macintosh à côté et qui avait à peu près les mêmes puissances. Hein, donc, ça donne quand même des points de repère. Mais voilà, moi, comme j'étais déjà sur des PC, évidemment, du coup, j'ai les données pour les PC. Donc, il y avait encore des PC qui étaient équipés du bon vieux 8088. Qui équipait le tout premier IBM PC de 1981. Après, il y a eu des générations beaucoup plus puissantes de microprocesseurs qui ont été mises sur le marché. On verra un petit peu on verra ou on a vu leurs caractéristiques. Donc, mais ceci étant, voilà, pour manier de l'image, faire de la retouche photo, etc., ça reste très faible. La mémoire, 640 kilo-octets à 4 mégaoctets. Alors là, c'est je vous ai mis des caractéristiques de PC qui étaient accessibles à des particuliers. Puisqu'en gros, ça correspond à mon tout premier PC portable qui était équipé d'un 8088 que j'avais acheté en 90, et le dernier au PC que j'avais acheté en 94. Les lecteurs de disquettes, car les supports amovibles, on n'avait même pas encore de clé USB, hein, c'était encore des disquettes. Vous voyez la capacité de ces disquettes. Et puis les disques durs, voilà, de 20 à 200 mégaoctets. Pour vous donner, alors évidemment, à l'époque, les appareils eux-mêmes n'étant pas aussi performants, les photos ne prenaient pas autant de place qu'aujourd'hui, hein. Mais ça peut faire un peu sourire que, enfin, j'ai un appareil photo qui n'est pas trop mauvais et le fichier brut qu'il me sort, pour une photo, il fait à lui tout seul 20 mégaoctets, donc il me prendrait toute la place d'un disque dur de mon premier PC. Il me faudrait un disque dur par photo pour les stocker. Et puis, pour ce qui est du tirage, parce que des fois, on aime quand même bien tirer sur papier ces photos, les imprimantes à jet d'encre existent. Mais elles sont encore chères, c'est-à-dire qu'à l'époque, on achète encore parfois des imprimantes à aiguille qui sont faites juste pour imprimer du texte, hein, que vous avez peut-être vu dans des films, celles qui font un bruit un peu affreux quand les aiguilles passent sur la feuille de papier. Et puis, même celles qui sont proposées ne sont pas optimisées pour sortir des photos. Elles sont optimisées pour sortir des graphiques, du texte dans des couleurs diverses, mais elles n'ont pas encore la finesse, aussi bien d'ailleurs, finesse au sens des petits points, des petites gouttes, la finesse des gouttes, que en termes de couleurs de celles qui existent actuellement. Enfin, même qui ont existé dans l'intervalle. Et puis alors, bah, si on se dit, bah, tant pis, hein, si je ne peux pas les tirer moi-même, je vais faire comme avec mes photos argentiques, je vais les faire tirer par mon magasin, par mon hypermarché. Hop, bah, si vous allez voir votre labo local et que vous lui demandez s'il peut tirer une photo numérique, évidemment, à l'époque, personne ne le fait, puisque comme il n'y a pratiquement personne qui a des appareils photo numérique, du coup, ils auraient, je sais pas, je vais caricaturer, mais un client toutes les 3 semaines. Évidemment, leur grosse machine de tirage de photos numériques, ils ne pourraient pas l'amortir avec un client toutes les 3 semaines. Donc, du coup, bah, personne n'achète de matériel, surtout qu'en plus, bah, ça évolue vite. Donc, en plus, c'est des appareils qu'il faudrait remplacer rapidement. Et donc, ce serait vraiment de l'investissement à fonds perdu. Donc vous voyez que n'y a pas grand-chose qui rend les circonstances favorables pour pouvoir voir apparaître enfin, voir les ventes décoller, ce qu'ils ont sont déjà apparus, des appareils photo numériques. Et puis, bah, par petites touches, mais tout ça va se renforcer et créer un effet de décollage, hein. Les éléments vont se mettre un petit peu en place à partir du milieu des années 90, on va dire. Déjà, un premier progrès sur les appareils photo eux-mêmes. En 95, Casio, donc, typiquement là aussi une entreprise qui vient de l'électronique, hein, qui n'est pas du tout un spécialiste de la photo, va proposer le premier écran LCD, hein, à cristaux liquides, qui est au dos de l'appareil. Alors, Bon, déjà, même avec ceux d'aujourd'hui, on se rend un peu compte, mais enfin, c'est quand même pas du tout pareil que ce que l'on va voir à l'écran ou sur papier. Mais à l'époque, c'est évidemment d'une qualité très limitée. Il n'empêche que ça donne une première idée de ce à quoi ressemble votre photo. Et donc, quelque part, même si vous n'avez pas de PC, alors certes, c'est pas terrible hein, à voir, mais vous avez quand même une idée de ce à quoi vous pouvez quand même voir votre photo, même si vous n'avez pas de support pour la voir. Ça a aussi un autre effet potentiellement positif, c'est que je vous ai dit que l'une des limites, c'était les capacités de stockage. Sur les disquettes encore utilisées à l'époque par les appareils photo numériques, bah vous voyez que là, l'avantage, c'est que dès que vous voyez qu'une photo a été vraiment ratée, et ça, vous pouvez quand même le voir sur l'écran LCD, bah vous la supprimez tout de suite et donc vous relibérez l'espace de stockage sur votre disquette. Donc, ça ne résout pas le problème, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même un progrès de ces deux points de vue-là. Et puis, bah, les capteurs vont là se mettre à faire des progrès beaucoup plus importants. Et donc, en 97, apparaît un premier appareil grand public qui passe le cap symbolique du million de pixels tout en restant sous le cap symbolique des 1000 euros. Et entre-temps, donc là, c'est ce qui s'est passé sur les appareils eux-mêmes. Mais entre-temps, les appareils, enfin les imprimantes à jet d'encre sont devenues dominantes. C'est-à-dire que bah, les imprimantes à aiguille ont pratiquement disparu et les imprimantes laser sont quand même globalement assez chères. Et puis elles sont de toute façon, pour l'essentiel, en tout cas celles qui sont accessibles à des particuliers, elles sont noires et blancs, enfin à niveau de gris. Elles ne sont pas couleur. Et puis, bah, les PC, eux, ils ont gagné en musculature, hein. Donc toujours en prenant les configurations qu'il y a eu, alors soit de moi perso, soit dans ma famille. En 96, c'était cette fois un Pentium, donc c'est 3 fois plus de transistors qu'un 486, par exemple. Donc cette fois, 16 mégaoctets de mémoire, 1,2 gigaoctets de disque dur. Et puis en 98, alors j'avais mis l'accent sur le disque dur et la mémoire, donc là, c'est plutôt au-dessus de la moyenne. Mais voilà, 128 mégaoctets de mémoire, 10 gigaoctets pour stocker. Donc, bah, ça peut faire encore sourire hein, par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui. Il n'empêche que les progrès ont été énormes. Hein. Je rappelle qu'un mégaoctet, c'est 1000 kilooctets, qu'un gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Et du coup, bah, ces appareils-là, en plus, on voit apparaître aussi les cartes d'accélération vidéo à l'époque. Alors, surtout pour les jeux, mais il n'empêche qu'ils aident aussi, par exemple, pour faire de la retouche photo. Et c'est en 1990 que Photoshop apparaît. Comme je vous l'avais dit, hein, le Macintosh s'était un peu accaparé tous les segments qui étaient liés au graphisme. Donc, du coup, au début, Photoshop n'existait que pour le Mac. Et puis, en 1994, il y a une version qui sort pour le PC. Et puis, toujours dans mon environnement, bah c'est le moment où le web décolle. Et le décollage du web, ça va conduire aussi à l'utilisation de formats d'images compressées. Parce qu'au début, pareil, les débits sur le web étaient très limités. Donc, du coup, on utilisait des formats compressés. Alors là, on les compressait beaucoup. Mais le format JPEG, il est un peu élastique, hein. Vous pouvez compresser un peu tout en gardant pas mal de qualité, ou compresser beaucoup, ce qui veut dire que vous pouviez aussi gagner beaucoup de place sur vos supports par rapport à du format brut. Donc vous voyez que là, les éléments, sont, beaucoup plus sympathiques finalement. Et puis bah, après, là je vais un petit peu plus vite parce que c'est surtout un enchaînement un peu plus logique et plus directement lié à la photo numérique. Donc simplement, les premiers réflexes, hein, vous savez, c'est les appareils photo qui, où on voit réellement ce qu'on prend en photo parce qu'il y a un système de miroir et qui sont objectifs interchangeables. Donc là apparaissent les premiers réflexes numériques et on voit au passage l'évolution du nombre de pixels. Et au passage, évidemment, des appareils comme ça, ça. Alors, ça ne fait pas totalement la jonction. Je veux dire, il y a toujours un bas de gamme et il y a toujours une gamme au-dessus, encore que D1, c'était un appareil photo haut de gamme à l'époque. Hein. Il y avait toujours des appareils moins performants et moins chers au-dessous. Hein. Mais néanmoins, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, des photographes vraiment amateurs ou quasi professionnels allaient commencer à utiliser des appareils photo numériques purs et durs. Pas des dos numériques sur des appareils photo plus classiques. Et alors là, le décollage est très très rapide en fait. Alors comme il se vendait peu d'appareils photo numériques avant, j'ai pas réussi à trouver de statistiques. Mais j'avais réussi à trouver un point de repère qui m'avait montré un peu l'ampleur des choses. C'était dans un article qui estimait que en 1996, chez Olympus, qui était pourtant une des marques s'était plutôt bien positionné enfin, qui s'était positionné assez tôt sur le numérique, eh bien, le numérique représentait 0,5% des ventes en 1996. Donc, ça donne un peu une petite idée, même si je ne peux pas vous garantir que chez tel autre, ce n'était pas 1%, hein, mais ça donne quand même un petit peu un ordre de grandeur de la différence entre le marché de la photo numérique et le marché de la photo argentique à l'époque. Donc, on est en 96, hein. Et en 2001, donc seulement 5 ans après, les ventes d'appareils photo numériques dépassent les ventes d'appareils photo argentiques dans les pays développés. Donc c'est pour ça aussi que le choc a été extrêmement violent pour les acteurs en place. C'est que le décollage, alors il s'est fait très très longtemps attendre, vous voyez, hein, 1980, hein, le premier appareil Sony, mais une fois que ça a décollé pour de bon. Et puis, bah alors, à partir de là, tout se met en route. Par exemple, les nouvelles séries d'optiques ne vont plus être optimisées pour la photo argentique, mais pour les appareils photo numériques, si bien que bah, ceux qui tenaient à garder leurs appareils photo argentiques, bah, ils utilisent des vieilles optiques. Or, comme il y a des progrès hein, dans ce domaine, évidemment, ils ne profitent pas des progrès. Et donc, voilà, après. Premier réflexe numérique grand public, c'est là on a vraiment opéré complètement la jonction, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a vraiment une gamme complète, quoi. Et alors, bah, on aura en série, tac, Agfa, enfin Agfa, la partie photo va arrêter très très rapidement. Alors eux, ils faisaient que des pellicules, donc c'est les plus. Polaroid va faire faillite dans les quelques années qui vont suivre. Kodak résistera plus longtemps, mais finira aussi par se mettre sous le régime de la loi des faillites américaines. Hein. Elle ne sera pas liquidée, mais Kodak passera par la faillite. Alors, c'est un cas. Alors, je vous ai déjà dit que c'était intéressant, j'ai arrêté de dire que le cas est intéressant, mais parmi les autres aspects qui le rendent intéressant, il y a le fait que ces deux entreprises-là s'étaient pourtant assez bien positionnées sur le numérique. Et donc, on aurait pu penser qu'elles auraient pu bien résister. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, ça nous amène à nous poser la question du lien entre le business model d'une entreprise et sa capacité à résister à telle ou telle innovation. Et là, on peut distinguer deux grands types de cas, en gros, hein. Donc, d'un côté, les fabricants d'appareils photo. Alors, je vous ai cité les grandes marques d'appareils photo avant. Si vous connaissez un tout petit peu le secteur, vous aurez remarqué que beaucoup existent toujours. Donc il n'y a pas eu un grand raz-de-marée qui a renversé les grands de la photo. Là, on peut l'expliquer par le fait que finalement, la photo numérique ne remet pas du tout en cause les bases de leur modèle d'affaires. À la limite, ça les conduit même pour certains à intégrer une partie qu'ils n'intégraient pas avant, parce qu'ils ne faisaient pas les pellicules. Certains vont faire les capteurs. Donc, quelque part, ils vont intégrer une partie plus importante de la valeur de l'appareil photo. Alors, ceci étant, c'est pas du tout. Enfin, ça ne veut pas dire que le virage était simple à prendre, que ça n'a posé aucun problème aux fabricants d'appareils photo. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, hein, parce qu'il a quand même fallu acquérir des nouvelles compétences. Hein, et il ne savait pas fabriquer, concevoir et fabriquer des capteurs numériques au départ, ces fabricants d'appareils photo. Là où c'est intéressant aussi, ah, décidément, j'aurais trop dit, c'est que on est un peu dans une situation où on est entre l'innovation vraiment purement competence destroying et l'innovation competence enhancing. Si vous vous souvenez un peu de, vous avez ça plutôt dans le cours, si vous vous en souvenez pas. En tout cas, pour les fabricants d'appareils photo. Pour les fabricants de pellicules, c'est que competence destroying. Hein. Mais pour eux, tout simplement parce qu'un appareil photo numérique, c'est quand même toujours un appareil photo. Alors vous me direz, oui, je ne me suis pas inscrit en master EMPI pour entendre des phrases comme ça. Certes, mais si vous prenez un peu de recul sur ce que ça veut dire qu'à peu près tous les autres éléments techniques de l'appareil sont toujours les mêmes. Donc ça veut dire que par exemple être capable de fabriquer des obturateurs, hein, c'est le système qui va ouvrir pour laisser entrer la lumière puis se refermer, qui est capable de s'ouvrir et de se refermer en 1/8 millième de seconde. Qui est capable de garder de la précision pendant 100 000 fois, alors qu'il va être utilisé 100 000 fois, etc. Donc, ce genre d'exploit technique-là, eh ben, c'est ce que savent faire les fabricants d'appareils photo japonais en question, et qui n'est absolument pas remis en cause par la photo numérique. Donc, il y a toute une série de compétences comme ça. Même chose pour les optiques, même s'ils vont devoir adapter leurs optiques à la photo numérique, les compétences de base qu'ils ont en optique, ben, c'est quand même les mêmes. Voilà, ils savent concevoir et fabriquer des optiques de haute qualité. Et ça, c'est toujours valable dans la photo numérique. Par ailleurs, ce n'est pas non plus des entreprises qui ne maîtrisaient pas l'électronique, parce que ça faisait quand même très longtemps que les appareils photo commençaient à être pas mal bourrés d'électronique, notamment à partir du moment où sont apparus les systèmes autofocus, où on a pu fait la mise au point à la main, mais où c'est l'appareil qui le faisait. Voilà, il y a eu de plus en plus d'électronique dedans. Donc voilà, nouvelles compétences sur les capteurs, mais beaucoup d'anciennes compétences. Alors, la conséquence, c'est que certaines entreprises qui ont su capter les nouvelles compétences ont été capables d'intégrer toute la chaîne. Donc c'est le cas de Canon, qui fabrique ses propres capteurs. Vous en avez d'autres comme Nikon qui sont un peu. Ils ont tendance à se fournir à l'extérieur en capteurs, mais ils sont capables de les modifier eux-mêmes. Donc on peut penser qu'ils ont des compétences quand même assez pointues. Et puis vous avez d'autres entreprises comme Pentax qui, eux, n'ont pas acquis cette compétence-là. Et ils sont d'ailleurs rentrés avec un peu de retard sur le marché de la photo numérique. Du coup, ils ont perdus en indépendance, en quelque sorte, hein, puisqu'ils sont obligés de se fournir auprès d'autres en termes de capteurs. Mais pour autant, ils continuent à maîtriser tout le reste, et les capteurs, ça s'achète. Donc voilà, ils se sont d'abord fournis chez Samsung, puis après chez Sony. Et puis, Enfin, vous pourriez dire, oui, mais alors dans les marques que vous avez citées tout à l'heure, il y avait aussi Minolta. Et alors Minolta, on n'en entend plus du tout parler, on ne voit plus du tout d'appareil Minolta. C'est tout à fait exact. Mais du coup, ça illustre au contraire très bien le côté hybridation que j'évoquais juste avant. C'est-à-dire que, en fait, Sony était donc rentré sur le marché de la photo avec le numérique quelque part, hein, avec le Mavica. Mais eux, il leur manquait les compétences, enfin, ils les avaient jusqu'à un certain point en optique, sur les obturateurs, etc. Ils les maîtrisaient par ailleurs pour les caméscopes, hein, mais ils n'étaient pas à la pointe. Hein, ils n'étaient pas au niveau de Nikon, de Canon, de Pentax sur ces éléments-là. Si bien que ça aurait pu les cantonner dans de la photo moyen bas de gamme, dans des appareils photo moyen bas de gamme. Et donc, ils ont été bien conscients du fait qu'il leur manquait ces compétences-là et ils ont racheté Minolta, tout simplement. Et donc après, bah, les appareils photo Sony, ça a été de l'électronique Sony, des capteurs Sony, mais dans des appareils qui étaient à la base des appareils Minolta. Donc ils n'ont pas fait faillite Minolta, ils ont été rachetés. C'est pas la même chose. Alors par contre, Kodak et Polaroid, eux, bah, ils n'ont pas résisté. Et alors, même comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'ils avaient plutôt bien anticipé, on l'a vu, hein, Kodak, c'est chez eux qu'a été inventé l'appareil photo numérique. Ils ont été parmi les tout premiers entrants, alors pas les premiers, hein, c'était Sony, mais ils ont quand même été rapidement sur le marché. Souvenez-vous que l'Apple QuickTake est en réalité un appareil Kodak. Voilà, au début des années 90, ça y est, ils sont là. On ne peut pas dire que, ils aient attendu le décollage pour être présents sur la photo numérique. Seulement, alors, ils ont probablement, selon certains experts, voulu trop vite intégrer leurs activités numériques dans leur division existante. Donc là, c'est souvent pris comme exemple sur le fait que, bah, il faut garder, on en avait parlé un petit peu au début du cours, une certaine séparation entre les activités dites d'exploration, c'est-à-dire celles qui sont là pour préparer le futur, et les activités d'exploitation, c'est-à-dire celles qui font vivre l'entreprise. Si je mets les capteurs dans la division pellicule photographique, puisque c'est ce qui correspond le mieux, hein, bah néanmoins, je vais avoir des équipes qui n'ont pas du tout les mêmes compétences que ceux qui sont sur les pellicules et qui sont des chimistes. Donc, pas de synergie entre eux, hein. Et par contre, bah, si je suis directeur de cette division-là et que je consacre allez, 5% de ma R&D au numérique, j'ai déjà l'impression de faire un effort, mais alors énorme, puisque bah, si je prends comme point de repère ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des chances que le numérique représente moins de 0,5% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà énorme, 5% de la R&D. Et puis je suis pas pressé de qu'il y ait une substitution de l'un à l'autre parce qu'encore une fois là toutes mes compétences c'est de la chimie, c'est là où j'ai mon avantage, etc. Donc je suis vraiment pas pressé de booster les ventes du numérique. D'ailleurs, Kodak va même essayer ce qui est arrivé assez souvent dans l'histoire des technologies. C'est que ceux qui sont sur l'ancienne technologie essayent de sortir des choses qui sont un peu hybrides. Et c'est un peu ce qu'a fait Kodak. Ils ont sorti des pellicules, donc enfin, c'est pas totalement hybride, ça reste de la photo argentique. Mais sur ces formats-là, ils ont à la fois fait en sorte que ça soit beaucoup plus simple à utiliser. Là, il n'y avait plus à tirer la pellicule sur la roue crantée en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de la lumière qui rentre pour ne pas gâcher les premières photos, etc. C'était des cartouches à mettre, et puis avec des nouvelles fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités à l'origine assez typiques des appareils photo numériques, allant du pur gadget qui est d'inscrire la date de la photo sur la photo à la possibilité de faire des photos panoramiques. Donc, bon, ça a été un échec, hein, le format APS. Tout ce qu'il en reste, pour ceux qui connaissent un peu la photo, c'est que pendant très longtemps, le format dominant en photo numérique, ça l'est probablement encore pour ce qui est des appareils photo, hein, c'est un format qui s'est appelé APS-C. Et en fait, c'est celui des pellicules APS de Kodak, qui était à peu près, il y avait à peu près 2 fois moins de surface que sur du 24-36. Polaroid, eux, ils étaient carrément les leaders technologiques dans les années 80. Hein, ils faisaient des capteurs de près de 2 millions de pixels quand les autres peinaient à en faire à faire des capteurs de 500 000 pixels. Donc c'est une vraie avance. Mais voilà, il y a plusieurs éléments. Je ne vais pas trop les détailler parce que c'est pas l'objet principal du cours, mais en tout cas, il y a plusieurs éléments dans leur façon de voir, leur stratégie, leur succès, etc., qui vont faire qu'ils vont retarder leur entrée sur le marché de la photo numérique. Et donc, ils ne vont pas profiter de cette avance parce qu'en fait, à ce moment-là, ils vont décider de relancer un programme de R&D pour encore s'améliorer. L'une des raisons, quand même, pour donner un des éléments, puis l'autre sera juste après. Mais il y en a 3 au total, mais c'est que leur point de repère, c'était la qualité des pellicules photo argentiques non instantanées. Et donc leur idée, c'était à chaque nouvelle génération de pellicules Polaroid, de se rapprocher un peu de la qualité des photos non instantanées. Le problème, c'est que quand ils font des capteurs de 2 millions de pixels, ces capteurs sont moins bons que les pellicules photo instantanées qu'ils ont à ce moment-là. Et donc, au lieu de les rapprocher de leur point de repère, ça les en éloigne. Et du coup, ils vont se dire, non, non, les consommateurs ne vont pas accepter qu'une nouvelle génération de nos appareils soit moins bonne, fasse des moins belles images que la génération précédente. Donc, on ne sort pas tout de suite, on lance un nouveau programme de R&D. Le problème, c'est que dans l'intervalle, ils vont se faire rattraper sur le plan technologique. Alors, maintenant, ce qui explique aussi en partie son retard et explique pourquoi il a été déstabilisé, c'est que l'un des piliers du modèle d'affaires de Polaroid, c'était qu'ils vendaient leurs appareils photo avec très peu de marge. Mais simplement, une fois qu'on avait un appareil photo Polaroid, vous deviez acheter forcément de la pellicule photo Polaroid et même d'autres accessoires comme les flashs, qui étaient des flashs consommables. Vous deviez acheter des. Il n'y avait pas de générique compatible, hein, donc c'était forcément vous alliez acheter chez Polaroid. Et évidemment, là, il y avait des marges conséquentes. Hein, c'est ce qu'on appelle souvent le modèle type lame de rasoir, parce que on vend les rasoirs avec très peu de marge, mais après on fait les marges sur les lames compatibles. Une imprimante à jet d'encre, ça vaut pas cher, mais il y a de la marge sur les cartouches qui vont dedans, etc. Ça, c'est ce que tiens, j'avais oublié que je l'avais écrit. Donc, très bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire avant, hein, sur le fait que leur cible, qu'ils avançaient par grands paliers et que leur cible de base, c'était la photo classique. Puis, à chaque fois qu'ils sortaient une nouvelle génération de pellicules, ils déposaient plein de brevets dessus pour toujours garder une longueur d'avance sur d'éventuels concurrents. Parce qu'évidemment, leur premier brevet était tombé dans le domaine public depuis longtemps. Et donc, le gros problème de Polaroid, c'est que le grand avantage du Polaroid qui était qu'on voyait la photo maintenant, c'en est plus un, puisqu'on voit aussi la photo aussitôt sur un appareil photo numérique. Et en même temps, il n'y a plus ces pellicules photo. Et donc, là où ils faisaient leur marge, ça supprime là où ils faisaient leur marge. Donc ça a à la fois déclenché une chute de leur vente d'appareils photo, mais derrière une grosse chute de leur vente de pellicule, c'est-à-dire là où ils faisaient l'essentiel de leurs bénéfices. Et puis, bah, quand ils ont quand même, hein, ils ont sorti hein, des appareils photo numériques, ils se sont retrouvés en décalage parce qu'en fait, ils étaient habitués à vendre leurs appareils photo pas chers, donc ils les vendaient essentiellement en grande surface. Or, les appareils photo numériques, comme il y a quand même le prix du capteur, etc., c'est forcément, alors surtout au début, mais c'est forcément quand même plus cher à niveau de performance égal que l'équivalent argentique. Donc, alors c'est pas grave parce qu'on amortit très vite ça du fait qu'on n'achète plus de pellicule, mais par contre, pour Polaroid, ça voulait dire vendre des appareils photo beaucoup plus cher que leurs appareils photo habituels, parce qu'en plus, là, cette fois, ils devaient faire la marge dessus, bah, dans les endroits où habituellement ils vendaient leurs appareils pas chers. Donc, vous voyez, ça. Ils se retrouvent du coup, ils n'ont jamais occupé une part de marché importante sur les appareils photo numériques, et du coup, ça n'a jamais compensé la chute très très forte de leur vente d'appareils photo instantanés et de pellicules photo instantanées. Quant à Kodak, alors eux, c'est un peu différent. Eux, ils ont un business model très intégré, c'est-à-dire qu'ils sont sur toute la chaîne de la photo. Ils vendent des appareils photo, même s'ils sont dominés surtout, même si maintenant, enfin, à ce moment-là, ils ont un peu quitté le haut de gamme, mais surtout, donc, ils sont dominants, on l'a vu, sur les films photographiques, les pellicules, mais ils proposent aussi des équipements de laboratoire de développement, et ils ont même leur propre réseau de laboratoires de développement qui achètent leurs propres machines qui permettent de développer. Alors, ils développent aussi, évidemment, des photos sur Fujifilm, hein, ils sont pas, il n'y a pas d'exclusivité, mais vous voyez bien le côté très intégré de l'ensemble, hein, bah, évidemment, l'un des problèmes, c'est que, bah, du coup, avoir un réseau de laboratoires, ça veut dire que si jamais, vous avez votre activité qui baisse, bah, chacun de vos laboratoires risque de tomber sous son seuil de rentabilité, ou sous son point mort, si on veut être rigoureux. Et donc, bah, peu à peu, à peu près tous vos laboratoires vont tomber dans le rouge les uns après les autres, puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui vont développer leurs photos. Du coup, bah, comme ces laboratoires photos se retrouvent en difficulté, qu'ils voient quand même que si jamais ils peuvent quand même faire un peu d'investissement, s'ils ne sont pas tellement la tête sous l'eau qu'ils ne peuvent plus investir, ils vont plutôt investir pour le coup dans des équipements numériques, puisqu'ils voient bien que c'est ce qui est en train de monter. Et du coup, bah, ils ne vont plus acheter d'équipements de laboratoire de développement classique. Donc, il y a toute une partie de la gamme de Kodak. Alors, Kodak proposait aussi des machines de développement de photos numériques, mais ça ne compensera pas, hein, globalement. Les laboratoires, les leurs, mais aussi les autres, hein, et ils ne vendaient évidemment pas qu'à leur réseau de laboratoires, vont se mettre à investir beaucoup moins. Vous savez sans doute hein, que quand il y a sur un marché de consommation finale une baisse, je sais pas, de 5 à 10%, généralement alors déjà sur les consommations intermédiaires, vous avez une baisse un peu plus que proportionnelle, va faire du moins 10, moins 15, parce que bah, souvent dans ces cas-là, les fournisseurs vont plutôt réduire leur stock face à la baisse du marché. Et donc, du coup, ça va enclencher les clients et les fournisseurs, d'ailleurs. Donc, du coup, ça va déclencher une baisse de la production. Et puis, d'autre part, il y a une baisse encore beaucoup plus importante. Alors, ça peut très bien être là de moins 30 ou moins 40% sur les biens d'équipement. Parce qu'évidemment, ce n'est pas au moment où votre demande chute que vous allez vous mettre à investir à tout va dans des nouvelles machines. Donc, bah, vous voyez que du coup, il se retrouve avec un réseau de laboratoires qui peu à peu tombe dans le rouge, hein, un peu comme Blockbuster et ses boutiques de location vidéo. Mais alors, en plus. Ils ont aussi la branche qui leur vend des équipements qui, du coup, voient son chiffre d'affaires baisser encore plus vite. Et puis, à côté, ils vendent aussi les pellicules photographiques, marché qui est en chute libre également. Donc, alors ils ont beau proposer des appareils photo numériques, ils n'ont pas d'avantage concurrentiel particulier. Hein, ils vont là aussi, en termes de compétences techniques, se faire à nouveau doubler par les Japonais. Et puis ça ne va pas compenser. Hein. Ils vont proposer encore une fois, ils proposent déjà des appareils photo, ils vont proposer des équipements de laboratoire pour faire du tirage de photos, puisqu'il n'y a plus besoin de développement, donc de tirage photo numérique. Mais d'une part, le nombre de tirages photo numériques, évidemment, n'a jamais rejoint le nombre de tirages photo argentiques, puisque, encore une fois, on ne tire pas toutes ces photos, même si on en prend plus également. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que... mais en tout cas, à ce moment-là, ça a déclenché une baisse, et donc ça ne pouvait pas compenser. Et puis, par ailleurs, il gardait cette nécessité de combiner, alors vous me direz, micromécanique, électronique, optique, c'est comme les fabricants d'appareils photo, et pour cause, c'en est un. Mais par exemple, chez Kodak, il y avait des armées de chimistes, des milliers de chimistes. Je ne vais pas dire qu'ils servent plus à rien, on peut en garder quelques-uns pour améliorer les processus de tirage de photos. Numérique, mais vous voyez bien que c'est plus du tout la compétence centrale, hein, d'une entreprise dans le monde de la photo numérique. Et du coup, sans rendre totalement obsolètes les compétences de Kodak, ça a changé la hiérarchie, hein, et donc l'électronique notamment est devenue beaucoup plus importante que la chimie, alors que Kodak était en termes relatifs, meilleur en chimie qu'en électronique. Et en même temps, ça a tué les marges ça a fait diminuer l'activité sur les pellicules, sur les équipements de laboratoire, plus l'activité des laboratoires eux-mêmes. Donc là, évidemment, alors, ça a déclenché une sorte de chute perpétuelle où tous les ans, les dirigeants de Kodak lançaient un nouveau plan de restructuration pour réduire les coûts. Il parvenait à réduire les coûts, mais comme le chiffre d'affaires baissait autant que les coûts, du coup, il restait dans le rouge. C'est comme ça qu'il se retrouvait en 2011 en situation de faillite. Et là, voilà, on vient de parler de relations entre innovation et modèle d'affaires. Alors, on les a vus sous un certain angle, qui est la résistance du modèle d'affaires à une innovation radicale. Eh bien, ça n'est pas la seule relation qu'il y a entre les deux. Et donc, vous aurez l'immense plaisir d'avoir comme possibilité de sujet numéro 4, donc avec une date de rendu. Vous voyez qu'à chaque fois, je décale d'une semaine, hein, pour que vous ne soyez pas. Même quand je donne deux sujets en même temps, je ne les donne pas pour la même date, pour que vous ne soyez pas coincés à jongler entre deux sujets qui vous plaisent tous les deux. Voilà. Donc, du coup, il est à rendre pour le 15 décembre, celui-ci. Évidemment, tout ça, ce sera sur le e-campus avec des espaces de rendu, etc. Alors, pour terminer sur la photo numérique, et après on fera une petite pause, finalement, aujourd'hui, les vendeurs d'appareils photo numériques sont en grande difficulté, beaucoup plus tard, du coup, qu'avec l'arrivée. Mais voilà, c'est lié à notre nouvel ami, notre nouvel animal de compagnie, le smartphone. Donc vous voyez que les ventes d'appareils photo numériques plafonnent, on va dire, entre 2008 et 2009. 2009, c'est plus le contre-coup de la crise financière. Mais vous voyez cette belle courbe, même si attention, hein, la dernière, c'est sur un semestre. Donc, imaginez que si ça reste au même rythme, ce sera plutôt autour de 26 millions d'unités, mais vous voyez bien que ça veut dire que le marché s'est divisé par rapport à son sommet de presque 5 en 2016, hein, et la tendance ne s'est pas démentie depuis. Hein, et on voit au passage que ceux qui résistent quand même nettement mieux, ce sont les appareils à objectif interchangeable, ce qui est assez logique, parce que finalement, un petit appareil photo de base, ça prenait pas des plus belles photos que un smartphone. Enfin, en tout cas, à partir du moment où les smartphones ont bien progressé sur la photo. Et donc, évidemment, tout le monde s'est mis à prendre des photos avec son smartphone plutôt que d'avoir un appareil photo. Et donc, l'appareil photo n'a finalement vraiment d'intérêt que si c'est un appareil un peu haut de gamme. Voilà. Bon, désolé, c'était un peu dense, mais comme il nous reste que deux séances, puis je ne voudrais pas en rajouter encore, parce que après, je voudrais programmer les permanences, mémoire et les permanences du cours. Voilà, désolé, je ne m'arrête pas du tout pour vous poser des questions, vous proposer d'en poser, ce qui ne doit surtout pas vous empêcher, par contre, de m'interrompre si vous en avez. Genre, faites quand même, hein, c'est pas parce que je dis ça que du coup. Pour vous sentir obligé de rester passif, pas du tout, hein. Mais voilà, du coup, c'était un peu rapide et dense. On fait une petite pause, du coup, pour quand même récupérer un peu. Et puis, on se retrouve après pour retrouver notre dernier épisode avec Renaud.